Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est samedi matin, 10h du matin. La ville de Kigali, complètement silencieuse. Les bars, les restaurants sont fermés. Pas une voiture, pas une moto. Absolument rien ni personne. Voilà, une voiture. Là, on est vraiment sur une des artères les plus empruntées, à côté d'un grand centre d'affaires. Généralement, c'est des klaxons, des embouteillages. Là, il y a un policier et puis il y a une fille qui marchait toute seule dans la rue avec un t-shirt violet et le policier lui a fait signe de venir. Là, il y a encore un policier. À celui-là, il arrête toutes les voitures, les deux voitures qui sont là.
Que se passe-t-il à Kigali, capitale du Rwanda, en ce samedi matin de février 2014 ? Quel pouvoir, quelle force réussit à imposer ce quasi-couvre-feu de 4 heures à un pays de 12 millions d'habitants ? L'opération est préparée depuis plusieurs jours à la radio, elle a lieu chaque mois. Cette fois, quiconque enfreindra l'Umuganda devra payer une amende significative. Et vous aussi, si vous voulez savoir ce que c'est, vous devrez être patient et discipliné. En attendant, en vous promenant ensuite l'après-midi dans les rues de Kigali, vous serez tout autant frappé par l'ordre qui y règne. Ici, pas un papier gras, ni le moindre sac en plastique entièrement proscrit du pays. Des motards obligatoirement équipés de casques avec des numéros qui correspondent à ceux de leur véhicule. Des ceintures de sécurité dûment attachées, des piétons qui traversent au passage prévu à cet effet, des services efficaces, des ronds-points verts taillés au ciseau à ongles et un cappuccino si vous en avez envie dans un café internet à tous les coins de rue. Ici, les enfants sont tous ou presque scolarisés, sinon les parents sont pénalisés. Le taux d'alphabétisation est en constante augmentation, comme la qualité des soins et de la santé publique. Dans certaines administrations, au-dessus du guichet, un numéro vert vous incite même à téléphoner pour vous plaindre si vous n'êtes pas content du service rendu. Le Rwanda a un des taux de corruption les plus faibles d'Afrique. Vous n'êtes pas à Singapour ni à Stockholm, mais pas loin, à l'intérieur de la vision 2020, le nom donné au plan décennal mis en marche Manu Militari depuis le début des années 2000 par Paul Kagame, le président de la République, depuis 1994. L'idée consiste à transformer le pays en une sorte de hub, de carrefour d'informations, de services et de technologies pour toute l'Afrique de l'Est. Peu importe, pour l'instant, que 90% des Rwandais vivent à la campagne, sans avoir souvent l'eau courante, peu importe qu'il n'y ait aucune véritable opposition au pouvoir de Kagame, accusé de faire assassiner ses opposants jusque dans les pays étrangers, l'idée c'est d'aller de l'avant, vers le progrès, sans broncher. Après un traumatisme national aussi profond qu'un génocide qui a coûté la vie à 800 000 Tutsis, et en particulier un génocide de voisinage, c'est peut-être la moins pire des alternatives. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, Kigali à marche forcée, nous sommes en compagnie de Marcel Kabanda qui nous a fait l'amitié de sortir de son rôle d'historien pour se faire le guide et le fil rouge de cette balade au cœur du développement économique jusqu'à ces zones d'ombre avec pour finir Florentine, propriétaire d'une belle boutique de tissus tout au sud de la ville. Rwanda, comment ça va avec la douleur ? C'est une nouvelle écoute d'une série que nous avions diffusée pour la première fois en mars 2014 à l'occasion du 20e anniversaire du génocide des Tutsis. Et nous vous proposons de la réécouter car toute la semaine sur France Culture, c'est une semaine spéciale pour le 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Comment
ça se fait qu'il n'y a absolument aucune voiture, pas de circulation, qu'on a l'impression que la ville est complètement endormie?
Il n'y a pas de circulation parce que le dernier samedi du mois, les Rwandais font l'Umuganda.
Umuganda?
Umuganda. C'est une participation à un travail collectif. Ça veut dire qu'on fait des activités qui sont organisées au niveau des quartiers, par exemple la construction d'une maison. Et chacun donne sa part. C'est ça Umuganda. Tout le monde participe.
Même le président?
Je suppose. Je suppose. Mais c'est tout le monde qui participe. C'est obligatoire. On ne peut pas ne pas participer. Parce que ne pas participer à une œuvre collective, ça veut dire ne pas faire partie de la collectivité.
Alors là, au milieu de la route, en fait, sur l'espace qui a une sorte de terre-plein qui sépare les deux voies, où il y a de l'herbe et des petits massifs, il y a des dames qui désherbent et qui nettoient les arbres. C'est-à-dire qu'elles ont des chiffons, et avec le chiffon, elles nettoient le tronc du palmier. Bonjour. Vous faites Umuganda?
Oui. Umuganda, oui, Diougou.
Umuganda obligatoire. Ils ont mis des bottes et puis un tablier vert et je frotte le tronc de palmier. Ce qui me semble de la plus haute importance, de lustrer le tronc du palmier sur la plate-bande au milieu de la quatre voies. Mais qui a instauré ça? C'est pas le précédent président?
Ah oui, je pense que ça a été instauré sous le régime de Abdel Manav.
Et pendant le génocide, est-ce que ça avait un sens particulier au Umuganda?
La participation au génocide pouvait être considérée par chacun comme Umuganda, comme un travail d'intérêt général, d'éliminer, d'exterminer les Tutsis. Donc chacun devait y participer. Ils appelaient ça travailler. Mais on pouvait ne pas y aller, effectivement payer comme une amende, donner à boire à ceux qui ont participé, ou alors dire qu'on est malade. Mais ce qui était terriblement sanctionné, c'est de s'exprimer contre.
Je vais essayer de faire du stop pour rejoindre le rendez-vous des journalistes qui vont observer le président de la République faire Umuganda. On est arrivé dans un petit village, un Mudugudu, où c'est le Umuganda modèle. Il y a plein de gens, peut-être 4-5 000 personnes. Bonjour, vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe?
Aujourd'hui ici, on va bâtir des maisons pour les gens les plus vulnérables. Tous les trous ont été creusés ce matin, on a mis des pierres et tout. Et après, on fait une petite réunion où on donne des informations d'intérêt général. Alors, moi aussi, je vais travailler un peu.
Il y a deux voitures qui viennent d'arriver. C'est le président de la République rwandaise, Paul Kagame. T-shirt noir, pantalon marron. Chaussures en cuir, très grand, très fin. Il a commencé à parler.
Donc je suis venue ici pour vous dire bonjour et pour travailler avec vous aujourd'hui dans ces travaux d'intérêt général au Umuganda. Donc quand vous faites votre part, que chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire en tant que citoyen, le pays en général se développe. C'est à ce moment-là que être rwandais a une valeur. Je me dis que si quelqu'un était venu il y a 20 ans, il ne reconnaîtrait pas cet endroit. Même ceux qui ne veulent pas du bien au pays, quand ils viennent, ils sont surpris par ce qu'ils voient. certains d'entre eux, quand ils repartent et qu'ils sont en train de planifier des choses qui vont perturber notre paix et notre sécurité pour détruire ce qu'on a accompli. On ne peut pas accepter une chose pareille nulle part au monde. On veut partir de ce qu'on a construit pour construire encore plus, parce qu'on a encore un long chemin à parcourir. Un peu de mots, je voudrais vous remercier encore une fois et vous souhaiter une bonne journée. Je vous souhaite de continuer à travailler de façon solidaire pour construire notre pays, pour le construire tel qu'on le souhaite. En fait, ce que ça dit, c'est Rwanda, mère patrie, on va mettre tous nos efforts pour te développer.
C'est fini?
Oui, c'est fini.
C'est la voiture présidentielle? Avec des drapeaux rwandais de chaque côté.
Ici, on est rond-point de Kakirou. Et là, en face, alors, ça cache deux chantiers, c'est deux bâtiments futuristes qui sont en construction, qui ne sont pas encore achevés, mais qui le seront bientôt.
On peut regarder, il y a un trou là.
Oui, oui, ce bâtiment-là, vous voyez, une architecture qui est totalement inconnue au Rwanda, c'est-à-dire que les Rwandais regardent un peu dans le monde entier ce qui s'y fait de bien et l'importent au Rwanda. Hein,
Là, c'est comme un gros champignon ou un peu comme le Stade de France.
Oui, oui, c'est le Stade de France, mais une espèce de satellite un peu inversé. Et je pense que ce sera en vert d'après ce que l'on m'a dit aussi. Donc, c'est véritablement quelque chose qui étonne les Rwandais. Les Rwandais doivent s'étonner eux-mêmes. C'est une source de fierté pour un pays qui a été aussi mal en point, qui a connu beaucoup de difficultés. Il faut qu'il se montre à lui-même qu'il a des possibilités de faire comme les autres et même mieux. Ce serait donc un grand centre international de conférences. Ça veut dire que le Rwanda, qui est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources minières, le Rwanda va être un pourvoyeur de services pour tous les pays de la région. Ça veut dire les télécommunications, ça veut dire les capacités d'accueil, d'où les grands hôtels qui sont en train de se construire un peu partout. Voilà. Alors, on voit bien le Rwanda qui renaît, et ça se voit par ces bâtiments qui sortent de terre comme des champignons. Ce n'est pas juste pour montrer nous sommes en train de naître, mais aussi ce sont des projets. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent 2020. Le Rwanda 2020, c'est comment il faut qu'il soit en 2020. Et donc, c'est un Rwanda nouveau, et donc on doit montrer cette nouveauté.
On m'a parlé d'un fonds qui a été créé pour que les Rwandais restent fiers et indépendants. C'est-à-dire qu'on a demandé une contribution.
Agaciro. Agaciro, c'est vraiment la fierté, la dignité. C'était à l'époque où le Rwanda était sous embargo. Des pays avaient pris des mesures de rétorsion contre le Rwanda.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois ans, parce que le Rwanda était accusé de soutenir la rébellion au Congo. Alors, comme mesure de rétorsion, c'était lui retirer des aides et des crédits. Alors, pour ne pas que les projets pâtissent de ces mesures, tous les Rwandais ont été invités, chacun selon ses moyens, à mettre quelque chose dans le pot qui permettait finalement de faire marcher ces projets. C'est une contribution spéciale, en plus de l'impôt. Alors, le montant qui est donné, il est volontaire. C'est du volontariat, mais qui est quand même assez suscité. On suscite les volontariats.
Et vous avez donné, vous, par exemple, Marcel?
Oui, un tout petit peu.
Vous avez donné combien?
Ça, c'est privé. C'est personnel, non. Je ne vais pas le dire. Non, ça se dit pas, ça. On est au centre commercial de la ville de Kigali.
Il y a des bâtiments qui ont quelques étages et puis quand même beaucoup de gratte-ciel, on peut dire.
Oui, c'est ces grands buildings en construction. Regardez, il y a des grands buildings de commerce, alors qu'avant, on avait des commerces à un seul niveau. Maintenant, ça devient plus qu'un centre commercial, c'est un centre d'affaires. Mais ce n'est pas vraiment le centre de Kigali. Parce que aujourd'hui, Kigali a plusieurs centres. Je ne sais pas où est le centre de la ville de Kigali. Maintenant, la ville s'étend de plus en plus. Dans le temps, il y avait un petit bâtiment que j'adorais, sur lequel c'était marqué PTT. C'est un bâtiment de l'époque coloniale. Je me rappelle, en 1995. Donc, ils ont dû le raser. Avant, ici, partout là, à côté du bureau de poste, il y avait beaucoup, beaucoup de marchands ambulants. Les marchands ambulants, c'est aussi des lieux dans lesquels parfois peuvent se cacher des bandits, etc. Alors, il y a eu comme une volonté de clarifier les choses, de mettre un peu plus d'ordre. Donc, maintenant, c'est propre, ça a été nettoyé.
Qu'est-ce que c'est, ça, pardon ?
C'est le marché de Kigali. Je ne l'ai pas reconnu. C'est ce grand bâtiment avec des miroirs qui est un marché. Alors, on entre dans le marché.
Donc, il y a la sécurité qui nous fouille. Pourquoi est-ce qu'il y a un portique de sécurité ?
Mais parce que pour assurer la sécurité des clients.
Mais quand j'entre dans une pharmacie, il n'y a pas un portique de sécurité avec oui, deux gardes armés ?
Ce n'est pas la même chose. C'est un centre qui est très important. Donc, c'est une cible. Si on veut faire un attentat et faire parler de soi, eh bien, ce sont ces centres qui sont les cibles. Maintenant, il y a même des ascenseurs sur le marché. Parce qu'avant, tout était par terre. Et par terre, c'était la poussière.
Alors, on s'éloigne en fait de la route principale et on prend un petit chemin en terre. Il y a de l'herbe, de la terre, un petit cours d'eau, enfin plutôt les égouts. Et puis on arrive dans des routes en terre qui sont plus asphaltées. Un petit garçon avec deux gros bidons jaunes. Qu'est-ce qu'il a dans les bidons jaunes ?
La masse.
De l'eau. Il doit y avoir une fontaine quelque part, peut-être à quelques mètres, pour faciliter aux gens qui n'ont pas de l'eau chez eux, de puiser de l'eau. Mais ça se vend 50 francs rwandais. Un bidon en plastique de 20 litres, 10 centimes.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on est vraiment juste à côté de quartiers très très modernes.
Oui, oui, tout à fait. C'est pas loin, c'est pour cela que les gens d'ici... Et bientôt, ils seront amenés à vivre ailleurs pour reconstruire les maisons et mettre quelque chose pour le développement du pays. C'est l'horizon 2020, Vision 2020. C'est le mot d'ordre.
Donc ça veut dire en 2020, ça y est, le pays sera moderne.
Tout à fait, c'est ça. C'est pour cela qu'à chaque fois, le Rwanda a quelque chose de neuf. Toujours, il y a des changements un peu partout. Que ce soit à Kigali, dans la ville ou dans des provinces, partout.
C'est plein de petites maisons en fait, avec des toits en tôle.
Oui, en plus, le toit doit avoir la même couleur, comme le gouvernement l'a exigé. Donc tout doit être peint en rouge, tous les toits. Sinon, c'est une amende.
Bah, celui-là, il est bleu.
Je pense que c'est une exception, mais de toute façon, il va changer.
C'est aussi parce que c'est une buvette, peut-être, non ?
Non, non, c'est pas la raison.
On va demander. Bonjour, on m'a dit que tous les toits devaient être en rouge et le vôtre il est en bleu. Pourquoi est-ce qu'il est en bleu ?
Le pays est en train de changer beaucoup de choses, donc ça doit se faire d'ici là.
Qu'est-ce que c'est votre prénom ?
Bosco.
Je m'appelle Bosco.
Donc là il est 4h de l'après-midi, vous prenez une grande bière.
cyane urumva nta kirahenze ntabwo wagifata udafite ubushobozi no rwego kugira ngo umuntu abaruhuka.
Ouais, c'est le moment de détente parce que quand même cette bière coûte énormément cher, donc on ne peut pas l'acheter comme ça. Donc c'est une détente, c'est pour cela que je me l'offre. C'est pas n'importe qui peut se l'offrir, mais voilà, ça coûte cher. Mais y a, quand même, si tu peux te l'offrir, c'est bien, tu te l'offres. C'est à peu entre 1 et 2 dollars.
Mais vous n'avez pas les moyens de payer une bière tous les jours?
Alors,
tous les jours, ça ne peut pas être possible.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez par mois à peu près?
C'est à peu près 90 000 francs par mois. C'est environ 142 dollars. J'enseigne l'anglais. C'est pas facile d'avoir du travail. Il y a beaucoup de chômeurs ici au Rwanda. Le nombre de gens qui continuent à terminer les études augmente au fur et à mesure. On a beaucoup d'intellectuels, mais tout le monde n'arrive pas à avoir du travail comme il faut.
Merci. Ciao, ciao. Il y a un monsieur qui crie
oui,
à la fenêtre.
Ce monsieur qui parle tout seul, c'est un rescapé qui n'a pas été soigné et qui de temps en temps part dans un délire. Et son délire, c'est un tourne autour d'un procès. Alors il paraît que parfois il se fait avocat, juge, témoin, accusateur, etc. Il fait le procès à lui tout seul, comme ça, à un moment donné, quand ça le prend, il fait ça. Il y a beaucoup de rescapés qui sont dans ces situations. Parce que le procès, dans certains cas, a été retraumatisant. C'est une demande de justice, en réalité.
Qui va nous montrer sa maison. Un portail vert. Qu'est-ce qu'il va ouvrir?
C'est le domestique. Ici même, le plus pauvre est né domestique.
La jeune fille avec un pagne, avec Bob Marley, c'est la domestique, c'est ça?
Ressemble à Bob Marley.
Elle est super jolie cette maison, vraiment. Elle est en briques rouges avec des fleurs qui courent tout autour. Un joli jardin, une belle place. Voilà, on est dans le salon. Combien elle est payée à peu près, la domestique, chaque mois?
Entre 10 000 francs et 20 000.
C'est-à-dire entre 10 et 20 euros. Et vous arrivez à gagner combien à peu près chaque mois?
Moi, je n'aime pas compter, je ne sais pas. Je vis de jour en jour. Parfois, je vois que j'ai l'argent, parfois, je vois que je n'en ai pas. Mais je mange, ça va. Je paye les études des enfants qui sont à Nairobi, c'est tout.
Après, quand ils vont revenir, les enfants, vous pensez qu'ils auront du travail?
Je ne pense pas qu'ils vont revenir ici, ils n'aiment pas. Parce qu'ici, on n'a pas de travail. Ça, c'est la fille de la domestique. On vit ensemble, il a son enfant. Il n'a pas de mari.
Vous êtes toutes les deux sans mari, en fait.
Moi, je l'ai perdu. 98.
Je ne suis parce qu'en fait, il est mort en prison, c'est ça.
Mais je ne veux pas en parler beaucoup.
Pourquoi?
Je n'y arrive pas. Ce qui s'est passé pour nous, on n'a pas le droit de le dire. Alors comme on ne le dit pas, c'est enfoui. Ça reste à l'intérieur.
Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler?
C'est peut-être parce que nous sommes de l'ancien régime. ceux qui ont osé, ils ont eu des problèmes, alors on ne parle pas. On est habitué. On vit c'est tout, de jour en jour. La messe, le travail, la maison.
Et vous êtes resté ici tout le temps ou vous avez émigré et vous êtes revenu?
Bon, en 1994, je suis partie un peu au Congo, mais directement je suis rentrée dans le pays.
En 94?
J'ai quitté le pays en mai, je suis rentrée en juillet.
D'accord. C'est-à-dire que c'était tous les Hutus qui ont quitté le pays, c'était la longue marche, c'est ça?
Du palais Etini, sur le palais Etini. Oui, non, pas des Etini, ce sont les Rwandais qui sont partis.
Ah, c'est des Rwandais qui sont partis, mais tout le monde sait très bien que c'était des Hutus.
C'est vous qui parlez Nous ne parlons pas. On évite de parler le passé.
Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants?
À nos enfants, on n'en parle pas.
Vous ne leur avez pas dit ce qui est arrivé à leur père? Vous leur avez pas
Ils savent qu'il est mort en prison. C'est tout. On évite toujours d'entrer dans la conversation. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Il doit suivre le chemin que le gouvernement leur montre. Pas de discussion. Je ne peux pas empoisonner mes enfants. Je veux qu'ils vivent leur vie. On les laisse faire le chemin.
Vous ne pouvez pas du tout critiquer, par exemple, le gouvernement?
Non. La jamais. C'est là. Non, je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas arriver de ça aussi.
Rêver,
même rêver, même dans ma chambre. C'est comme ça. Ce qui ne va pas, on ne le dit pas. On ne veut pas le voir. On dit seulement ce qui va.
C'était Kigali à marche forcée, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. C'est une émission que nous avions diffusée pour la première fois en mars 2014 et que je vous propose de réécouter pour ouvrir une semaine spéciale 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda avec une programmation notamment chaque jour de cette semaine dans Culture Monde, une génération après le nouveau Rwanda, LSD de lundi aujourd'hui à jeudi 4 avril. Je vous propose aussi de réécouter la formidable série de Madeleine Mukamabano et Mehdi Elhadj, 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est sur le procès, les procès qui ont eu lieu ensuite. Et puis de nombreuses programmations passionnantes sur ce sujet sur France Culture. Voilà, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.